Quel est le plus important? Que Dieu nous soit agréable ou que nous soyons agréables à Dieu? J'ai été sûr de dire cela. Et si on prenait le temps de réfléchir à la réponse qu'on vient de donner, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de revoir notre façon de vivre la vie chrétienne? Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de revoir notre façon de prier? Parce que bien souvent, nous nous servons de la prière pour que Dieu nous soit agréable au travers de bénédictions agréables. Il y a eu quand même des dons spirituels ce matin qui allaient dans le même sens. Et je crois que on n'a pas le droit de les laisser tomber là. Paf, ça y est, tu as parlé, on pense à autre chose. Non. Dieu nous a appelés à nous humilier. Et ça, je crois que ça va être agréable à Dieu. Et pas pour nous. Parce que s'humilier, ça veut dire je regarde en fait ce qui dans ma vie ne plaît pas à Dieu. Parce que si Dieu me le dit, c'est que forcément il voit des choses et qui ne lui plaisent pas. Je ne le dirai pas. Mais je crois que si vraiment l'important c'est d'être agréable à Dieu, on a vraiment besoin, sérieusement, d'examiner notre façon de vivre la vie chrétienne. Au quotidien. Au quotidien. On est parfois très sec. Oui, on est sec. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Hein. On sèche. Hein. On peut sécher. Et ça, c'est plus être agréable à Dieu. Alors, on a besoin de revoir notre façon d'être devant Dieu. Notre façon de faire devant Dieu. On a besoin de tout revoir de temps en temps. Et sérieusement, hein, c'est un petit peu, vous savez, comme sur les voitures d'un certain âge. La vignette, avec le contrôle, la révision, le contrôle technique. 65 euros. Nous, Jésus a donné sa vie. Il valait bien plus que 65 euros, certainement. Pour que nous puissions être agréables au Père. Ce matin, un aspect qui est très agréable à Dieu, au cœur de Dieu. Nous voulons lui faire plaisir, nous voulons lui être agréable. Alors, immanquablement, ça va passer par ce point que nous allons développer. C'est la suite du point qu'on a vu il y a deux semaines, qui était tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Chacun de vous, même le plus imparfait, et Dieu sait qu'il y en a quelques-uns. Oui. L'accueil qui est parfait. Jésus. Tous les autres sont imparfaits. Donc je m'adresse aux imparfaits. Si nous voulons plaire à Dieu, immanquablement ça va passer par cette parole, parce que Dieu veut que nous soyons bénédiction. Bénédiction. Alors si vous avez bonne mémoire, on a vu il y a 15 jours de cela, que cette parole d'Abraham, cette parole de Dieu à Abraham, c'est Genèse 12, Dieu lui dira, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et cette parole, elle n'était pas que pour Abraham, parce qu'elle s'accomplit en Jésus. Elle ne s'accomplit pas pour Jésus, comme Jésus. Donc si Jésus est dans ton cœur, et je crois que c'est le cas pour quelques-uns, nous devenons bénédiction pour les autres, les familles de la terre. Amen. Allez, dis à ton voisin, je suis une bénédiction pour toi. Et même s'il ne te croit pas, dis-le-lui. Ah, dites-le vous, parce que des fois on a l'impression que je suis une bénédiction pour toi. Ouais. Je voulais devenir une bénédiction pour toi. Et toi, tu vas être une bénédiction pour moi. Et ça, c'est agréable au Père. C'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu parce que souvent, nous disons, Seigneur, bénis-nous. Mais ton frère, il va te bénir. Ta sœur va te bénir. Et toi, tu vas les bénir aussi. nous sommes des bénédictions. Et le premier point qu'on avait vu ensemble il y a 15 jours, c'est que ça commence là. Hein. Nous sommes, vous êtes, tu es, bénédiction, mais dans l'Église. Ça commence là. Ça commence là. On avait vu en trois points, plutôt comment être réellement concrètement une bénédiction pour l'Église, dans l'Église. Alors, on avait été très simple. Premièrement, on avait vu, je rappelle ce qu'on a dit il y a 15 jours, tu es une bénédiction quand tu viens à l'Église. Amen. Tu es bénédiction quand tu reviens à l'Église. Parce qu'il y a parfois cette tendance quand on sèche, on est de moins en moins présent. Alors, c'est un signe de sécheresse. Regardez, mais ça existait dans la Bible, c'est écrit. Ne prenez pas, comme certains ont l'habitude, de délaisser nos réunions. C'est la semeur. N'abandonnez pas vos réunions. Vos réunions. Pas les réunions. Vos réunions. Au contraire, encouragez-vous mutuellement. Oui, mais si tu ne viens pas. Oui, mais pasteur, vous inquiétez pas, je suis avec vous en esprit. Oh, mais oui, ouais, bon, si tu veux. Mais c'est tellement mieux de s'encourager physiquement. Hein. Oui. Parce que physiquement, on peut se saluer, s'accueillir, partager, se confier, prier. Vous voyez? Oh, je ne suis pas contre, oui, je suis avec vous en esprit, bon, d'accord, si vous voulez. Mais ça peut aller beaucoup plus loin si seulement on revenait aux réunions. Et ça, c'est un signe de bénédiction. Deuxièmement, on avait vu que nous pouvons être vraiment concrètement une bénédiction dans l'Église ici, et en soutenant l'Église. À soutenir, on parle de quoi? Oui, je vois des signes. Quand je vois un signe, on a compris, c'est bien. Les dîmes, et ça soutient l'Église. Oui, mais le Seigneur pourvoira, pasteur, vous inquiétez pas. On attend. Et la Bible. Il va voir que le Seigneur te responsabilise. Et ça, c'est agréable à Dieu. Quand tu ouvres ton porte-monnaie. Parce que la Bible dit, honore Dieu avec tes biens. Ah. Voilà, la prière, finalement, ça coûte pas cher. Donner sa dîme implique de savoir mettre Dieu dans tous les domaines de sa vie, même matériellement. Parce que finalement, notre vie matérielle, financière, etc., si on en a une, vie matérielle et financière, c'est parce que quand même Dieu a bien voulu nous bénir dans ce domaine. Ai-je le droit de ne pas lui être agréable dans ce domaine? En retour. Et la Bible dit, apportez vos dîmes, Malachie 3:10, apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, etc. Et notez, je n'avais jamais fait attention à cette précision, parce qu'il y a toujours, vous savez, des petits filous. On peut ici, là-bas. Apportez vos dîmes dans leur totalité. Et qui certainement devait calculer. Je dois ça, mais je vais en garder un petit peu. On ne va pas tout donner quand même. La Bible ne le dit pas à leur totalité. Mais vous verrez, si tu le fais, le Seigneur de son côté ouvrira le ciel, les écluses des cieux, et il enverra la bénédiction à l'abondance. Vous voyez, des fois, mais parfois prier pour que Dieu vous bénisse. Parfois, mais arrêtez, obéissez à la parole, tout simplement. Obéissez au principe de l'Écriture, et vous allez voir que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'obéissance. Vous les manifesterez. Et troisièmement, on avait vu bénédiction dans l'Église en s'investissant dans l'Église. S'investir dans l'Église, ça veut dire que tout ne repose pas sur une personne ou sur une poignée de personnes. Mais la vie de l'Église, dans son organisation la plus large, repose sur vous. Parce que la Bible dit que vous avez tous reçu des talents, des capacités, des dons, tous. Même celui qui penserait, mais moi non, j'ai rien reçu, pasteur. Non, la Bible dit le contraire. Tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Si on devait faire des appels pour combler tous les besoins de l'Église, on y serait jusqu'à midi. Il y a beaucoup de besoins dans l'Église. Ici, hein, au fin fond de l'Afrique, hein, ici, il y a besoin. Et les talents, ils sont où? Vous croyez que j'ai tous les talents? Vous m'élevez là. Non. C'est vous qui avez tous les talents. Pas une personne, mais chacun de vous. Et quand on rassemble tout cela, ça fait fonctionner l'Église dans tous ces. Dans tous ces rouages, que ce soit sur l'estrade, que ce soit dans le. Voilà, par tous les services. Tout tourne bien parce que vous mettez au profit de Dieu ce que Dieu vous a lui-même donné. Chacun de vous, dit la parole, a reçu de Dieu un don particulier. Il l'utilise pour le bien des autres. Ah, c'est pas pour te faire plaisir, non? C'est pour le bien des autres. Et le mettre à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. C'est beau quand même, taper la complémentarité. Donc on est tous appelés à faire quelque chose dans l'Église locale. Tous. Un jour, nous fait cette annonce, nous avons besoin de volontaires pour distribuer, ben oui, mais ça en fait partie. Oui, mais je ne suis pas un don, pasteur. Non, mais c'est une activité de l'Église. Une activité de l'Église. Et le but, c'est pas de se mettre en avant, et que l'Église puisse être active dans tous ses rouages. Donc, merci beaucoup, Bénin. Hein. Que Dieu te bénisse. Je crois que nous trouverons pour se proposer. Amen. Alors ce matin, on va continuer sur tuer une bénédiction, mais pas que dans l'Église, parce qu'on ne vit pas dans l'Église 24 heures sur 24, et heureusement, parce qu'au bout d'un moment, je crois que ça. Oui. Et là où on passe le plus de temps, finalement, c'est à l'extérieur de l'Église. C'est un nom particulier. C'est le monde. Mais c'est là où nous passons le plus de temps. Et si on veut être agréable à Dieu, il faut être capable d'entendre cette voix du Seigneur nous dire « Tu dois être bénédiction dans le monde. » Parce que Dieu nous a placés dans le monde. Si Dieu aurait voulu nous épargner des souffrances de ce monde, il nous aurait enlevés dès qu'on serait sortis de l'eau du baptême. Mais ce n'est pas le cas. Ça serait bien. Non, Dieu veut que nous soyons dans le monde, et on y est vraiment, mais pour être bénédiction dans le monde. C'est aussi ça la vie chrétienne. C'est aussi ça. Je lis un texte dans Matthieu 13, 36. C'est la parabole du semeur. Alors, on ne va pas le lire dans sa totalité, ça serait trop long. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. » Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est pas la parole de Dieu. C'est les fils du royaume. Les fils et les filles du royaume. Les enfants de Dieu. Les chrétiens. La semence. C'est comme si, on essaie d'imaginer, Jésus le semeur sort pour semer, il vient dans le monde, parce qu'il dirige le monde. Et dans sa main, il prend une poignée de semences. En fait, la semence, c'est vous. Vous êtes à la main du Seigneur, vous le saviez, hein. Et il vous regarde et vous dit, ah, toi, tu veux être une bénédiction. Et t'envoie pas dans le royaume de Dieu, hein. T'envoie dans le monde. Et là où tu vas tomber, ce c'est sur le terrain sur lequel tu vas être bénédiction. Et bien, c'est ça la parabole. Hein? Vous êtes les fils et les filles du royaume de Dieu. Et le Seigneur vous a situé ici à Castres, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu, dans son infinie sagesse, qui fait concourir toutes choses, mais ça nous dépasse complètement, a voulu que tu sois ici. Voilà. Peut-être pour des raisons professionnelles, peut-être pour des raisons familiales, peut-être pour toutes les raisons. Mais au final, tu es attaché à cette église. C'est parce que Dieu veut que tu sois ouvrier dans cette église et que tu travailles dans le champ autour de cette église. Tu es d'accord avec tout ça? Maintenant, c'est vrai que la parabole dit qu'il y a quatre terrains différents. Et souvent, on accentue sur la différence des terrains pour montrer que certains étaient moins bien et d'autres étaient plus favorables. Mais ça, mais ce n'est pas la semence qui choisit où elle veut tomber. Non, c'est parce qu'on veut tous tomber dans la bonne terre. Voilà, mais si le Seigneur, justement, t'a lancé dans les pierres et dans les ronces, c'est parce que Dieu veut que tu sois bénédiction malgré la difficulté du terrain, que tu sois quand même une bénédiction pour ce terrain. Ça ne remet pas en cause la qualité de la semence, même si elle ne porte pas du fruit. Parce que les graines, la semence, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ils ont tous en eux le principe de vie. Il suffit qu'ils tombent sur le bon terrain. Et ce n'est pas parce que la graine tombe dans les ronces et qu'elle ne portera pas de fruits parce que les ronces vont tout étouffer que ça fait d'elle une mauvaise graine. C'est le terrain qui a empêché la vie. Non, mais je dis ça parce que ça va nous faire déculpabiliser. Parce que si vous avez Christ en vous, vous avez la vie en vous. Parce que c'est le terrain qui fait que parfois, ça éclot tout seul, et dans d'autres, bah, il faut y aller, il faut persévérer. Mais ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous place. Alors, on a besoin de prendre des avions et d'aller là-bas, dans les pays où il y a des grands réveils. Non, si Dieu t'a placé ici, c'est que Dieu veut que tu sois bénédiction ici. Il y a eu toute une vague, là, ils sont partis au Canada, au Québec, après ils sont tous partis en Corée, après ils sont tous partis. Non, Dieu te veut ici, tu restes ici. Tu es fait ou pas, mais peu importe. Nous avons dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, des ministères, des hommes de Dieu, des prophètes, pendant des années, ils ont été fidèles à Dieu, il y a eu comme résultat, mais rien. Ils ont quand même réussi leur ministère, parce qu'ils étaient là où Dieu voulait qu'ils soient. Par exemple, Osée, le prophète, quand même, pendant 30 ans, il a appelé le peuple à se repentir, mais ils n'ont jamais voulu se repentir. Son taux de réussite, 0-0, ça fait un bon vélo. Il n'y a rien. Mais devant Dieu, il a réussi. Vous voyez Jérémie. Jérémie est envoyé pour essayer d'exhorter toute la classe sacerdotale pour éviter justement que l'ennemi vienne et détruise le temple, mais ils n'ont jamais voulu l'écouter. Son ministère, pour de réussite, ouf. Mais devant Dieu, il a réussi parce que jusqu'au bout, il a passé le rêve. Donc, si Dieu a voulu que nous soyons ici, c'est que certainement Dieu veut que nous soyons une bénédiction ici. Qu'il y ait des fruits ou pas, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui fait croire, c'est pas moi. Donc Dieu veut que nous soyons une bénédiction dans le monde, mais localement ici, là où Dieu nous a placés. Est-ce que vous êtes vraiment convaincus de ça? Ouais. Mais c'est important. C'est très important. Parce que comment être réellement, concrètement, une bénédiction pour ce monde? Comment être une bénédiction pour les gens du dehors? Alors, on connaît leurs besoins. Oui, même si on n'a pas fait l'école biblique, on connaît les besoins des gens. Ils ont besoin de quoi? Et de Jésus. Vous voyez? On connaît leur aspiration profonde. Même s'ils ne vous le disent pas, mais c'est dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que l'homme cherche? On cherche tous la même chose, être heureux sur terre. foi. La paix, toutes ces choses, mais tout le monde cherche ça. C'est parce que dans les gènes de l'homme, tout le monde cherche ces choses. Je ne dirai plus jamais cette phrase-là. Et nous, on sait comment trouver ces choses-là en Jésus. On connaît la solution de ce monde, finalement. C'est de parler de Jésus. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Et quand on a compris ça, on commence à être agréable au Père. Parce que là, nous touchons du doigt la mission de l'Église. Parler de Jésus. J'ai besoin. Ce monde a besoin de Jésus. Même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne le reconnaissent pas, même s'ils ne veulent pas l'admettre, même s'ils rejettent tout cela en bloc, ils ont besoin de Jésus quand même. Et ça, on le sait. Parfois, l'Église, elle s'est quand même un peu. On s'est quand même un peu trompé. Alors, je mets des pincettes dans tout ce que je vais dire, parce que je ne suis pas contre ces choses-là, mais ce n'est pas un but en soi. Parfois, l'Église, elle s'est un peu fourvoyée dans l'organisation d'événements. On organise des. Alors, je ne suis pas contre, au premier modèle, on organise des concerts, on organise des kermesses, on organise des repas, on organise. Mais finalement, on reste quand même entre chrétiens, bien souvent. Et on se fait plaisir entre nous. En fait, la mission du Seigneur, c'est justement que l'Église sorte de ses murs pour aller vers les gens qui ne viendront pas à l'Église. Certains viendront, mais la majorité ne viendra pas. Et c'est là le rôle. Notre rôle, c'est d'aller vers eux. S'ils ne viennent pas à l'Église, c'est l'Église qui doit aller vers eux. Pourquoi ? Pour leur parler de Jésus. Ça vaut tous les concerts. Hein. Je ne suis pas contre, hein. On a eu, on fera. Il y aura des goûters, il y aura des repas, il y aura tout ce que vous voulez. Mais parlez de Jésus. Voilà ce qui est agréable au cœur du Père. Et nous parlions de son Fils, Jésus. Parce que c'est là la solution à tous leurs maux, à tous leurs problèmes, leurs plus grands besoins. Et s'ils ne le croient pas, ils ont besoin de comprendre qui est Jésus, de comprendre l'amour de Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 6, Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor. Là, voilà la phrase importante. Nous portons ce trésor dans des vases de terre ou d'argile, n'importe la version. Ce trésor, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Et vous avez tous la connaissance du Fils de Dieu. Parce que vous n'êtes pas chrétien. Et ce trésor, il est en vous. Vous êtes des vases. Notre version traduira cet évangile, la connaissance de l'évangile, et le trésor précieux qui nous a été confié, nous le portons dans nos cœurs comme dans des vases d'argile. Cet évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est un trésor précieux, spirituel, que nous portons tous dans nos cœurs. La vie est en nous, on a besoin de réaliser ça. La vie de Christ est en nous. Tu as la vie de Christ en toi. Tu as la connaissance du Fils de Dieu. Elle est en toi. Tu es un vase, tout est dedans. On a besoin, finalement, de reprendre cette scène des évangiles comme Marie l'a fait en son temps. Elle a pris le vase et dans cette sphère, elle avait le plus précieux. Elle l'a brisé pour répandre le parfum aux pieds de Jésus. Alors, on a besoin d'évangéliser Jésus. On a besoin de briser nos vases devant les personnes de ce monde qui sont perdues, afin que la bonne odeur du parfum de Christ qui est en nous, la connaissance, nous la répandions sur eux, sur les gens qui sont perdus. Et ça demande ça demande de briser le vase. Parce que ce n'est pas l'argile qui est précieux, c'est plutôt la terre. C'est ce qu'il y a dedans. Et ce fait de briser, finalement, ce que nous sommes, ça nous parlera de cet acte qui parfois nous fait le plus défaut, c'est le courage et l'obéissance. Qu'est-ce qui nous empêche de parler aux gens? Bon, on n'est pas tous comme certains qui ont de grandes facilités, je regarde là justement. Et la plupart des gens, pour ne pas dire 9 sur 10, dès qu'on est devant quelqu'un, c'est pas naturel que de parler de Jésus. On sait qu'on devrait parler de Jésus, mais on est confronté à une sorte de résistance intérieure qui demande que je brise tout cela, parce que sinon je ne dirai rien. Le courage de briser cette résistance vase pour que l'autre puisse être au contact des paroles de la vie éternelle, puisqu'on les a tous, ces paroles de la vie éternelle. On les a tous. Le courage. Le courage et l'obéissance. Mais je crois que finalement, si on est honnête avec nous-mêmes, ce qui nous empêche le plus de témoigner, mais spontanément, mais c'est pas évident. Il faut être honnête. Hein. Je pense qu'on a honte. On a honte. Qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça? Le candidat à tout, on a honte. Et c'est curieux que cette honte, cette réserve, cette inquiétude, elle n'apparaît que quand il faut parler de Jésus. Parce que dès qu'il faut parler de tout et n'importe quoi à tout le monde, parfois on est les premiers, hein. on parle de la météo, on parlera du président, on parlera de tout. Et dès qu'on parlera de Jésus, il y a une réserve qui s'installe, des barrières qui se dressent. Là, tout on ne parle pas. On a comme un peu honte de parler de Jésus. Un peu de Jésus. C'est étonnant. Hein? C'est très humain, c'est très charnel. C'est pas naturel de parler de Jésus. C'est un combat spirituel. La première année, c'est que ces barrières se dressent naturellement. Alors que je sais pertinemment ce qu'il faut faire, mais en moi, il y a comme une résistance. Quelqu'un m'a dit en son temps, je sais ce qu'il faut faire, mais en moi, il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. C'est l'apôtre Paul qui disait ça. Il y a une loi en moi qui m'empêche de faire ce qu'il faudrait faire, alors que je sais qu'il faut que je le fasse, et finalement, je suis le plus malheureux. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et dans le témoignage, on a dit souvent, on en est là, on sait qu'il faut parler, et on est bloqué, paralysé, parce que notre chair vous a complètement emprisonné. Terrible, hein? Et après, on est tout malheureux. Tout malheureux parce qu'on sait qu'on est passé à côté d'une occasion de témoigner. C'est vraiment un combat. Un combat sur soi, spirituel. La Bible dit dans la version Semeur, s'il te plaît, Jean 17, 18, pour un texte qui nous montre vraiment qu'on doit parler, on doit témoigner. Je sais que vous allez être convaincus, je sais, je ne vous apprends rien, mais faisons-le maintenant. Faisons-le, parlons de Jésus. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Le verset 20, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, non, verset 20. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux, pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Jésus est déjà en train de prier pour les personnes auprès de qui nous allons témoigner. Et c'est beau, il travaille vraiment avec nous, hein. C'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur témoignage. Donc ça veut dire que le témoignage peut vraiment susciter la foi en celui qui va l'entendre. Moi je dis ça parce que parfois on peut culpabiliser en se disant, mais moi j'ai pas un grand témoignage. Alors c'est sûr, quand vous lisez les ouvrages de ces grands hommes de Dieu, vous dites, mais Dieu l'a sorti vraiment de choses. Il a un témoignage très fort, très puissant. Amen. Non. C'est pas parce que toi, tu n'as pas été délivré de 30 démons que tu n'as pas le témoignage puissant, ça n'a rien à voir. Ton témoignage, il est glorieux du moment qu'il est réel en Jésus. Aussi simple soit-il, mais existe-t-il un simple témoignage? Non, mais tout témoignage est un miracle de Dieu. Mais aussi simple soit-il, il peut toucher et créer la foi en celui qui va l'entendre. La foi était de s'excuser qu'on a un témoignage qui ne sera pas efficace. Non, il est efficace. Il est efficace parce que là, tu es en train de dénigrer l'œuvre de Jésus dans ta vie. Jésus a fait de grandes choses dans ta vie. Même si tu n'es pas tombé dans le plus bas des péchés et commis toutes les choses atroces de ce monde, ton témoignage, il est glorieux. Parce que c'est Jésus qui t'a sauvé. Et ça, le monde a besoin de l'entendre. Amen. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et la suite. Et vous aussi. Ah non, cette version se meurt. Faut que tu mettes, s'il te plaît. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Là, vous dites, vous serez mes témoins. Mais la chose la plus pertinente. Et vous aussi, vous serez aussi, vous rendrez témoignage. Le Saint-Esprit rendra témoignage de moi, et vous aussi, puis Jésus, vous rendrez témoignage de moi. Donc autant on travaille avec Jésus qui prie pour que les âmes soient sauvées parce que je leur témoigne, mais en même temps, le Saint-Esprit, je travaille avec le Saint-Esprit parce qu'il veut témoigner de Jésus en se servant de moi. Et je travaille avec le Fils et l'Esprit. Et tout cela, c'est agréable au Père. On veut être agréable au Père. Alors ça implique que je travaille pour la cause du Père, qui est que la connaissance de Jésus se répande sur toute la surface de la terre. Oui, mais pasteur, je ne sais pas témoigner. Il y en a certains qui me disent ça. Bon, je peux faire lever la main, mais je sais que plusieurs me l'ont dit. J'ai des noms, j'ai une liste. Je ne sais pas témoigner, je n'arriverai pas. Est-ce que vraiment on ne sait pas témoigner, honnêtement? Est-ce qu'on sait prier? En tout cas, les chrétiens qui me disent « je ne sais pas témoigner », ce sont des chrétiens qui savent prier. Mais finalement, qui suscite la prière? C'est l'Esprit. Qui suscite la louange? C'est l'Esprit. Bon, il est d'accord avec ça. Mais alors, qui suscite le témoignage? Alors, Dieu, c'est curieux, hein? On sait parler en langue, la plupart. Qui suscite le parler en langue? Merveilleux, c'est l'Esprit. Mais on ne saurait pas témoigner. Et laisse faire l'Esprit. Oui, mais en fait, ta peur, c'est tout. Ta peur, ta honte, tu ne veux pas. Le qu'en dira-t-on? C'est le même Esprit qui opère ces choses-là. La Bible le dit bien, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, hein? Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera. Donc cet argument, pasteur, je ne sais pas témoigner, non. Si tu sais prier, en plus tu parles la langue, tu sais louer Dieu, non. J'ai besoin de briser le vase, tout simplement. Cette résistance qui fait qu'on a peur. On a peur ou on a honte, mais on a besoin de briser cela. Un brisement pour que le Saint-Esprit puisse enfin se servir de nous. C'est bien que le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels, c'est bien que le Saint-Esprit suscite de louanges renouvelées, c'est bien, mais c'est très bien tout ça, mais ça c'est pour l'Église, pour le monde. Dieu veut être en bénédiction pour le monde, et l'Esprit va travailler pour ce monde, mais en se servant de l'Église. Et le témoignage, c'est l'Esprit qui va le susciter. L'apôtre Jean dira un semeur. Alors, c'est pourquoi un semeur? Jean 1, Jean 5, 10. C'est un verset assez particulier quand même, mais qui est très révélateur et qui balaye tous ces faux arguments que, voilà, je ne sais pas témoigner, je n'arriverai pas, j'ai rien à dire, je ne sais pas comment le dire. Non. Non, non. À Jésus et à l'Esprit, tu es largement éduqué. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage, il est déjà là. Ton expérience personnelle est largement suffisante à la puissance du Saint-Esprit pour susciter la foi à celui que tu parleras. Le témoignage, tu l'as en toi. Il est en toi. Donc le Saint-Esprit peut se servir de chacun. Vous êtes témoin. Vous êtes appelé au témoignage et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Tout est là pour que vous soyez agréable au Père en étant unile et utile pour ce monde, en répandant la connaissance de Jésus. Amen. Alors, je vais aller un peu plus loin, mais les propos ne sont pas là pour culpabiliser, comprenez-moi bien. Moi. Non, je ne veux pas mettre mal à l'aise personne, mais. Faisons un peu le bilan. Nous sommes au début 2018-2017. Est-ce que j'ai eu la joie en travaillant avec Jésus et le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai eu la joie d'amener une âme au salut? Posez-vous la question. Asseyez-vous, c'est normal. Seigneur, que 2018, j'ai la joie. En travaillant avec toi, Saint-Esprit, et avec toi, Jésus, d'être un outil entre tes mains pour amener une âme au salut. Non, ça ne vous intéresse pas. L'église est doublée, pour le coup. Une année est double, si en fait on travaillait avec Jésus et le Saint-Esprit. Oui, mais pasteur, non, la parole, c'est la parole, tu l'acceptes ou tu la rejettes. Et on est sauvé pour témoigner. On ne peut pas appeler à vivre dans l'Église. Même si l'Église, c'est bon, ça nous plaît, mais lisez le livre des Actes. L'Église n'existe pas dans le sens structure, local, ça n'existe pas. Ils ont tous le témoignage de Jésus et ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur tout le bassin méditerranéen à une vitesse incroyable. À peu près en 20 ans, tout le bassin méditerranéen est couvert de la connaissance du nom de Jésus. Regardez même à Jérusalem, les pharisiens, les sadducéens, vont reprocher aux disciples d'avoir rempli la ville de Jérusalem de la connaissance de Jésus. On nous reprochera à grâce d'avoir rempli la ville de la connaissance de Jésus. Ça sera bien, hein? C'est qu'on aura beaucoup témoigné. Dans les églises, ça n'existe pas. Bon, le local, le bâtiment. L'Église, c'est les chrétiens qui vivent leur foi. Bon, des fois, ils se rassemblent dans des maisons, mais en fait, ça parlait. Ce n'était pas des prospectus, hein. il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Mais les chrétiens répandaient le témoignage. Partout où ils allaient, ils répandaient le témoignage. Et plusieurs églises se sont créées, tout simplement. Des groupes, des communautés qui se rassemblaient. Après, il y avait une persécution, ça a éclaté dans tous les sens. Et là où ils allaient, et continuer à parler de Jésus. Et c'est comme ça le schéma. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans ce schéma, malheureusement. On s'est un peu replié dans les murs. Les murs, bon, ils sont bons, nos murs, c'est vrai, mais on est parfois aussi emprisonné dans nos murs. Hein. On ne parle pas trop de Jésus. Alors on loue Dieu, mais vraiment, c'est sincère. Après, on loue Dieu, tout ça, voilà. On se nourrit entre nous. Mais c'est bien. Je ne dis pas qu'il le faut pas, attention. Mais la mission, pas dedans. La mission, c'est à l'extérieur. Seigneur, donne-moi en 2018 d'être missionnaire. Une âme. Donne-moi à rencontrer une âme, de lui parler, et surtout de la conduire jusqu'à la croix, et d'avoir la joie de la voir se tourner. On en est là, on est heureux. Et une joie, qu'on s'est vraiment senti utile pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Et ça, c'est, ça n'a pas de prix. Il faut que notre vie chrétienne soit utile aux autres. Bon, à l'intérieur, bien sûr, nous donnons tout ça pour faire fonctionner l'Église, mais utile aux pécheurs. C'est quand même Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu pour ceux qui avaient vraiment besoin de lui. Il n'est pas venu pour bénir les bien importants, mais pour ceux qui étaient malades. Et nous, on a besoin, on a vraiment besoin de comprendre ces choses-là, d'avoir cette vision des choses pour agir comme Jésus agirait. Qu'est-ce qu'il ferait Jésus s'il était là? Il nous dirait, allez là, prenez vos sacs, prenez le bâton, et on y va. On y va, tout simplement. Je ne pense pas qu'il resterait là. Même s'il trouve la salle très belle, je ne pense pas. De temps en temps, il reviendrait pour se reposer, mais après, il repartirait. On a besoin de comprendre cette dynamique de la vie du chrétien, témoigner. Alors, il a besoin de parcourir la France entière, hein. Là où on est. Là où on est. La Bible dit, tu cherches vraiment, tu vas en trouver les perdus. Hein. Tu vas trouver. Tu vas les trouver, les perdus. On a besoin tout simplement de ce courage, de ce zèle. C'est ça qui nous manque, ce zèle. Ce zèle, cette puissance. La Bible le dit, et même le classe dans les armes de l'armure du chrétien. Dans Éphésiens 6, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors voici ce que dirait notre version. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole, ce témoignage. Toujours prêts. Disait qui cherche trouve. L'apôtre Paul est un exemple. S'il y en a un qui a été un grand missionnaire, c'est bien l'apôtre Paul. Et même dans les moments les plus négatifs, mais apparents, les plus hostiles, les plus décourageants, là où peut-être la moitié de nous, on ne peut pas dire les trois quarts, peut-être la totalité, on aurait baissé les bras, lui, il y voit encore des occasions d'accomplir la mission, et notamment quand il sera en prison. Dans l'Épître aux Philippiens, je vais le lire dans la parole vivante, il est en prison et abandonné de tous. De tous, les chrétiens, vous avez peur. Vous n'allez pas aller les visiter en prison parce que vous ne voulez pas se mettre en prison pour aussi. Bien. C'est ce qu'il dira, parole vivante. En effet, mon emprisonnement m'a donné de fréquentes occasions de rendre témoignage. Je ne sais pas si nous, on aurait eu cette. Peut-être que nous, on se serait mis à. Et Seigneur, pourquoi je suis en prison? Et Seigneur, pourquoi tu fais rien? Et Seigneur, tu m'as oublié? Et Seigneur, c'est pas normal? Et Seigneur. Lui, il est en prison, mais à la prison, il trouve des occasions de rendre témoignage. Toute la garde prétorienne et de nombreuses autres personnes ont entendu parler de Christ. Il a pu toucher une population qui n'aurait jamais pu toucher s'il avait été en liberté. C'est incroyable quand même. Et tout ça pour dire quoi? Que même quand tu es au plus mal, dans des situations les plus négatives, au lieu de tout centrer sur toi, et je ne vais pas bien, et Dieu m'a oublié, non, mais même là où tu es, si tu cherches bien, tu verras. Il y aura toujours plus malheureux que toi, ça c'est sûr. Mais toi, comparé à eux, tu as les paroles de la vie éternelle. Et eux qui sont vraiment mal, parce que toi, tu es sauvé quand même, hein, même si tu ne le vois plus, mais tu es sauvé. Tu peux leur apporter les paroles qui vont les sauver. Donc finalement, on n'a pas le droit de se plaindre de notre sort. Parce que quoi que nous vivions, si Dieu a permis ça, c'est pour que justement, peut-être, nous puissions rencontrer des gens. Quand j'entends le témoignage de Marcel. C'est Marcel, Jésus. C'est vrai que ça n'a pas été marrant, la situation. Mais là où il était, il a pu témoigner. Mais s'il avait été en bonne santé, jamais il aurait fait ce jour là-bas. Et cette âme n'aurait jamais peut-être entendu. On ne sait pas. Quoi qu'il nous arrive, et même les choses les plus négatives, si Dieu l'a permis, c'est parce que même là, il y a certainement quelque chose à faire pour le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. N'oublions pas, nous sommes la semence, les fils du royaume. Nous sommes dans la main de Dieu et c'est Jésus qui répand la semence. Donc si la semence que tu es tombe dans un séjour à l'hôpital, c'est que là, certainement, tu as une mission à accomplir. Oh, bien sûr, ce n'est pas agréable. Ah non, ce n'est pas agréable. Mais bon, tu appartiens à Jésus et c'est lui qui décide. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est être agréable au Père. Et non forcément être agréable à tes désirs, à tes envies. Nos vies ont été données pour sa cause. Nos vies ont été rachetées pour son service. Est-ce que la semence a le droit de dire au semeur, surtout ne m'envoie pas là-bas? Alors, pour mieux pas dire ça. Non, c'est le semeur qui décide. Toi, accepte le terrain dans lequel tu vas tomber. Un jour, tu seras sur un terrain, on va dire, fertile. Un jour, tu seras en plein désert. Mais peu importe, là où tu es, il y a quelque chose à faire. Et même si tu n'envoies pas les fruits, même si ton taux de réussite, c'est zéro, et tu as un beau vélo, mais peu importe, ce que Dieu veut, c'est qu'en toute chose, tu sois fidèle. Trouver fidèle. Même s'il n'y a pas de la réussite, la persévérance en ne voulant jamais baisser les bras est déjà la victoire en soi. Ah, je vous sens bien, là. Ça y est, ça va partir. Là, ça. On a besoin de parler de Jésus. Je n'irai pas plus loin, mais parler de Jésus. Si vraiment vous avez cela à cœur, c'est que c'est Dieu qui vous l'a mis à cœur. Et si Dieu vous l'a mis à cœur, c'est que vous êtes prêt à aller plus loin dans ce domaine-là. Il faudrait que l'Église ait à cœur. L'Église est appelée à être missionnaire. Tu es appelé à être missionnaire. J'en profite pour rappeler que l'évangélisation des villages, donc, on est 22. Deux de plus se sont rajoutés. Que Dieu les bénisse. Moi, s'ils sont là, je ne vois pas trop. On est 24. Je regarde la liste des membres de l'Église. On est un peu plus que 24. L'Église a besoin de témoigner. Je sais que certains le font déjà dans leur quotidien. C'est bien, continuez. Mais on a besoin de le faire. L'Église a besoin d'organiser des choses pour aller. Allez et faites, parlez, témoignez, priez avec les gens. Je voudrais terminer par quelques textes. Des textes qui nous montrent que quand nous ferons ça, témoigner, Jésus va travailler avec nous. Mais Jésus ne travaillera pas sans nous. Il travaillera avec l'Église. Cette parole, elle est pour tous ceux qui se plaindraient, mais on ne voit plus rien. Il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien. Oui, mais commence à retravailler et tu vas voir que Dieu va faire ce qu'il faisait autrefois. Parce qu'autrefois, les gens, c'est pas le livre des actes, des chrétiens témoignaient. Et vous regardez, il y a des miracles de toutes les pages. C'est parce que les chrétiens travaillaient. On a besoin de retrouver cette vision du témoignage. Qu'il soit au niveau de l'Église organisée, mais qu'il soit personnel dans votre quotidien, peu importe. Mais témoignez. Quelle est la dernière fois que vous avez pu parler de Jésus à quelqu'un? Un chrétien, hein? Un non-chrétien. Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus à un non-chrétien? Si c'était ce matin, c'est parfait. Si c'était hier, c'est bien. Et si c'était il y a 3 ans, Regardez ce texte, c'est une promesse de Dieu. Hébreux 2, verset 4, en sommaire, Dieu a authentifié leur témoignage à l'ajouter le ciel. Vous voyez, ils ont d'abord témoigné, et Dieu, il vient pour ajouter le ciel. C'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance. Ce qui est traduit souvent par des prodiges, des miracles et des guérisons, tout simplement. Ça venait confirmer le témoignage de ceux qui avaient le courage de témoigner. Et Marc 16, on le connaît presque par cœur maintenant le texte. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Parce que ça fait partie du témoignage aussi. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que parler, c'est une chose. Et quand vous êtes confronté à la personne qui en face vous dit « Oui, mais si c'est vrai ce que tu me dis, et que Dieu me guérisse. » Et vous faites quoi? Vite, j'appelle le pasteur. Non, n'appelez pas. N'appelez pas. Mais toi, impose les mains aux malades. Je peux y arriver. Si tu crois, c'est pour toi. Parce que Jésus nous dit que si tu témoignes, lui, n'est pas qu'une chose, c'est de confirmer ton témoignage. Par des prodiges, des miracles. Et des guérisons. Et le verset 20 nous dit, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout, témoigner, proclamer, et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole, le témoignage, par les miracles qui l'accompagnaient. Et ça, c'est encore d'actualité. Il suffit tout simplement de revenir au travail que Dieu attend, le témoignage. Amen. Elle est convaincue, là. Tu seras, je termine, tu seras source de bénédiction pour le monde, parce que tu es dans le monde quand tu ouvriras ta bouche pour parler de Jésus. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Même si au début ils te rejettent, même si... Ils ont besoin de l'entendre. Et Jésus, et ça c'est vraiment une grande sécurité, est déjà en train de prier pour ceux qui vont croire en lui grâce à ton témoignage. Donc tu n'es pas tout seul dans l'affaire. Il y a Jésus avec toi qui prie. Et il y a le Saint-Esprit qui va te donner les bonnes paroles, qui va toucher leur cœur. Et le Père qui va confirmer ton témoignage par des prodiges, des miracles, et des guérisons. Donc on a vraiment besoin de briser ces vases, nos carapaces, nos résistances, et de laisser répandre la connaissance de Jésus auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen. Vous êtes des témoins, vous êtes des missionnaires. On prie le Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci parce que, en nous sauvant, tu as fait de nous des missionnaires pour nous envoyer. Et tu as mis les paroles de la vie éternelle dans nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas les retenir captives. Nous ne voulons pas les enfermer ou les garder que pour nous. Mais nous voulons les répandre autour de nous. Seigneur, aide-nous à briser ces carapaces. Afin que cette connaissance soit utile aux autres. Sois une bénédiction aux autres. Seigneur, nous prions afin que le Saint-Esprit ne voit en nous plus d'obstacles pour ce travail-là. Nous voulons nous livrer à ce travail-là parce que nous voulons aimer les âmes qui se perdent. Remplis nos cœurs de compassion pour elles. Remplis nos cœurs d'amour pour elles. Remplis notre cœur, Seigneur, de cet intérêt pour eux. Seigneur, ils sont perdus, on ne peut pas rester insensible à cela. Alors viens rallumer ce feu de la compassion afin que nous devenions utiles à ces âmes perdues. Aide-nous, Jésus. Tu as promis de travailler avec nous. Nous voulons, Seigneur, avoir cette vision de l'évangélisation
de cette mission qui est là devant nous. Sers-toi de chacun, Seigneur, et que l'Église puisse enfanter des âmes nouvelles pour que ton royaume s'établisse, grandisse et se remplisse. Et que le Père soit glorifié.